Alors, vous avez votre Bible avec vous? Nous allons voir la parole de Dieu ensemble. Et le week-end dernier, j'ai évoqué avec vous la dimension de la destinée. Vous vous souvenez de ça? Et j'avais pris notamment ce verset qui est Éphésiens chapitre 2, verset 10. Éphésiens chapitre 2, verset 10, nous allons commencer dans cette écriture ce matin. Éphésiens, chapitre 2, verset 10. Tout le monde est confortablement installé. Et passez votre chair et dites, je suis prêt à recevoir. Vous êtes réveillé?
Oui.
Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Donc, quand j'ai évoqué la dimension de la destinée, j'avais expliqué que lorsqu'on rentre de notre destinée, nous rentrons dans les bonnes œuvres que Dieu a planifiées et préparées par avance. Donc, il y a trois choses qu'on peut extraire de ce verset. La première chose, c'est que nous sommes en Christ pour de bonnes œuvres. Nous avons délaissé les mauvaises et maintenant nous voulons entrer dans les bonnes. Deuxième chose, ces bonnes œuvres, Dieu les a préparées par avance. Donc il y a déjà un chemin qui est tracé pour nous. Comme je disais la semaine dernière, il y a déjà des rails qui sont plantés pour nous. Et la troisième chose, c'est que Dieu veut que ces bonnes œuvres, nous les pratiquions. Et vous savez quoi? Quand vous pratiquez les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour vous, non seulement vous entrez dans votre destinée, mais vous allez expérimenter, et ça va être mon sujet de ce matin, vous allez expérimenter ce qu'on appelle la grâce de Dieu. Et ce matin, j'aimerais vous parler du service dans la dimension de la grâce de Dieu. Si nous sommes sauvés par la grâce de Dieu, nous voulons continuer à le servir dans la grâce de Dieu. Mais trop souvent, nous sommes sauvés par la grâce de Dieu et nous essayons de le servir par nos propres forces ou nous essayons de le servir par notre chair. Je tiens à signaler aussi ce matin que je vais plus être dans une dimension d'enseignement que de prédication. La Bible dit que Jésus, il enseignait, il prêchait et il guérissait. Donc Jésus faisait de l'enseignement et Jésus faisait de la prédication. Donc la prédication et l'enseignement sont deux choses différentes mais proches. Quelle est la différence? C'est que la prédication de la parole de Dieu a une dimension de proclamation. Jésus est Seigneur, ouais. Il nous a sauvés, oui. Où on proclame la parole de Dieu avec l'onction du Saint-Esprit. Ça, c'est la prédication de la parole de Dieu. Lorsque, par exemple, en Marc 16, verset 15, il est écrit « Allez par tout le monde et annoncez la bonne nouvelle. » Donc, quand on annonce la bonne nouvelle ou on prêche, on est en train de proclamer quelque chose. Alors que l'enseignement de la parole de Dieu est un petit peu différent. L'enseignement de la parole de Dieu a une dynamique d'explication de la parole de Dieu. Donc la prédication, ça va apparaître ici, a une dynamique de proclamation de la parole de Dieu, alors que l'enseignement a une dimension d'explication de la parole de Dieu. Donc ce matin, je vais plus prendre le temps d'expliquer ce qu'est la grâce de Dieu. Parce que la grâce de Dieu, malheureusement, c'est un sujet qu'on entend souvent. Une fois qu'on est chrétien, depuis 5-10 ans, on se dit « Ah, peut-être le pasteur l'a évoqué une fois ». C'est quelque chose que j'entends. Quand je salue quelqu'un, je le demande s'il va bien, la personne me répond « Je vais bien par la grâce de Dieu ». Quand je prie avant de prendre mon repas et mes aliments, je rends grâce. Paul, quand il salue dans les épîtres et quand il salue à la fin, il parle de la grâce de Dieu et dit que l'amour de Dieu et la grâce du Seigneur Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Donc on voit que la grâce de Dieu, ou alors quand on voit une femme qui danse bien, on se dit « Oh, mais elle danse avec grâce ». Donc, la grâce, on entend ceci, mais essayez d'expliquer à quelqu'un d'autre ce qu'est réellement la grâce de Dieu, et là, on va se retrouver un petit peu coincé. Donc, la semaine dernière, c'était servir le Seigneur avec joie dans la dimension d'atteindre sa destinée. Mais pour pouvoir atteindre notre destinée, il va falloir être revêtu de la grâce de Dieu. D'accord? Donc, ça va être mon sujet ce matin, c'est que nous sommes sauvés par la grâce, pour servir dans la grâce. Je répète ça une fois. Nous sommes sauvés par la grâce de Dieu. Mais maintenant, nous voulons servir dans la grâce de Dieu. Nous ne voulons pas servir dans la chair, nous ne voulons pas servir par nos propres forces. Nous voulons servir avec l'équipement que Dieu nous a donné. Qu'est-ce que la grâce de Dieu? C'est un équipement surnaturel que Dieu nous donne. Il nous donne des aptitudes, il nous donne des dons, il nous donne des talents qui sont destinés à nous aider pour accomplir le mandat que Dieu nous a donné sur la terre. Ça, c'est la grâce de Dieu. La grâce de Dieu n'a rien de passif dans la parole de Dieu. La grâce de Dieu est toujours active. Et Dieu veut déverser sa grâce sur son peuple pour que son peuple puisse accomplir le mandat que Dieu lui a donné. Donc la grâce de Dieu, c'est un équipement surnaturel qui va nous permettre de produire beaucoup de fruits. Prenez par exemple Jean chapitre 15, verset 8. Jean chapitre 15, verset 8. Un de mes sujets préférés, ou plutôt verset. Jean 15, verset 8 me dit, si vous portez beaucoup de fruits. Oh, j'aime ça. Si vous portez beaucoup de fruits. Qu'est-ce qui va se passer quand je porte beaucoup de fruits en tant que chrétien? Mon Père sera glorifié. Et lorsque mon Père est glorifié et que je porte beaucoup de fruits, alors je suis devenu un disciple de Jésus-Christ. Un croyant ne porte pas beaucoup de fruits, alors qu'un disciple porte beaucoup de fruits. Donc voilà la différence entre le croyant et le disciple. Le croyant croit, alors que le disciple croit et porte beaucoup de fruits pour le royaume de Dieu. Mais nous n'allons pas pouvoir porter beaucoup de fruits sans expérimenter la grâce de Dieu pour le servir. Et quand je porte beaucoup de fruits, je suis un disciple de Jésus. Et quand je porte beaucoup de fruits, regardez, mon Père est glorifié. Donc sommes-nous censés porter beaucoup de fruits? La réponse est
oui.
La réponse est oui. Donc nous allons voir deux aspects de la grâce ce matin. Deux aspects de la grâce. La grâce est tellement riche qu'on ne va pas pouvoir tout couvrir en une matinée, vous comprenez bien. Mais on va voir deux aspects principaux de la grâce. La première chose que j'aimerais, sur laquelle j'aimerais m'intéresser ce matin, c'est pourquoi s'intéresser à la grâce de Dieu. Pourquoi s'intéresser à la grâce de Dieu? Je vous ai dit que je vais enseigner ça. Donc peut-être que je serai un peu moins dans tous les sens, quoique. Mais j'aimerais que toute l'assemblée et toute la congrégation aient les bases que je vais donner ce matin sur la grâce de Dieu. Parce qu'il y a trop de confusion dans le corps de Christ, à l'heure actuelle, sur ce thème de la grâce de Dieu. Certains n'ont aucune idée de ce que c'est, certains ont une petite idée de ce que c'est, et d'autres sont en train de tordre la doctrine de la grâce dans un sens qui n'est pas conforme aux Écritures. Donc, ayons une bonne base doctrinale dans la grâce de Dieu. C'est mon but ce matin. La première chose, pourquoi s'intéresser à la grâce de Dieu? C'est parce que Dieu est le Dieu de toute grâce. Donc, pour pouvoir comprendre le Dieu de la Bible, j'ai besoin de comprendre la grâce. Si je ne comprends pas la grâce de Dieu, je ne vais pas comprendre le Dieu qui est écrit dans ce livre. La Bible dit que Dieu, son trône, est un trône de la grâce. Devant son trône, il y a la grâce et il y a la miséricorde. Voilà à nouveau deux sujets qu'on entend souvent, mais on ne sait pas trop ce que c'est. La grâce, devant le trône de Dieu, il est le Dieu de toute grâce, il y a premièrement de la grâce et il y a de la miséricorde. Qu'est-ce que ça veut dire? La grâce, c'est quand j'obtiens quelque chose que je ne méritais pas. Par exemple, le salut, je l'ai obtenu alors que je ne l'ai pas mérité. Par contre, la miséricorde, c'est autre chose. C'est ce que lorsque je n'obtiens pas ce que je méritais. La grâce, c'est lorsque j'obtiens ce que je ne méritais pas. Par exemple, le salut. La miséricorde, c'est lorsque je n'obtiens pas ce que je méritais. Exemple concret, je méritais la croix. Mais étant donné que Dieu est un Dieu de miséricorde, je n'ai pas obtenu ce que je méritais. Et Jésus est allé à la croix à ma place. J'ai obtenu le salut et je n'ai pas obtenu la croix. Là, c'est la grâce et la miséricorde ensemble. Lorsque tu as obtenu le salut, ça, c'était l'œuvre de la grâce de Dieu parce que tu ne le méritais pas. Et lorsque tu as évité la croix parce qu'il allait à la croix à ta place, là, tu as expérimenté la miséricorde de Dieu parce que tu n'as pas obtenu ce que tu méritais en fait. Voilà deux petites notions, mais très importantes, qu'on voit dans toute la parole de Dieu. Dieu est le Dieu de toute grâce. Jésus-Christ est appelé, il est la grâce de Dieu. Si tu veux voir la grâce de Dieu manifestée sur la terre, il va falloir regarder à Jésus. La Bible nous dit dans Jean 1, verset 17, que la loi est venue par le biais de Moïse, alors que la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Donc Jésus est la grâce de Dieu incarnée. Jésus a dit, celui qui m'a vu, a vu le Père. Quand tu vois Jésus opérer dans la grâce, tu es en train de voir le Père. Souvenez-vous, il n'est pas venu pour condamner, mais pour sauver. Ça, c'est la grâce de Dieu. Le Saint-Esprit est appelé l'Esprit de grâce. Dans le livre des Hébreux, c'est marqué qu'on peut outrager l'Esprit de la grâce. Donc Dieu est le Dieu de toute grâce. Jésus est la grâce de Dieu. Le Saint-Esprit est appelé l'Esprit de la grâce. Et l'Évangile que nous croyons, que nous prêchons, que nous enseignons, est appelé l'Évangile de la grâce. Petite question, est-ce que vous pensez que la grâce est importante? Dieu est le Dieu de toute grâce. Jésus est la grâce de Dieu. Le Saint-Esprit est l'Esprit de grâce. L'Évangile est l'Évangile de la grâce. Waouh! Donc, est-ce que vous pensez que c'est important qu'on puisse s'attarder un peu dessus? Quelques notions sur la grâce de Dieu. Avant d'en développer deux en particulier. La première notion qu'il faut développer, c'est la grâce de Dieu n'a pas son origine en l'homme, elle a son origine en Dieu. La grâce de Dieu, ce n'est pas quelque chose que l'homme peut fabriquer par lui-même. La grâce de Dieu, c'est quelque chose qui émane du cœur de Dieu. C'est quelque chose qui sort du trône de Dieu parce qu'il a un trône de grâce. Devant son trône, il y a la grâce et la miséricorde. Donc l'homme ne peut pas fabriquer la grâce. La grâce, c'est quelque chose qui sort de Dieu. C'est quelque chose qui sort de son cœur de père. Donc la grâce, elle commence en Dieu. La Bible dit par exemple en Romains 5, verset 8, que Dieu a prouvé son amour envers nous, qu'alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Voilà la grâce. La grâce, c'est que Dieu avait une pensée pour nous avant que nous ayons une pensée pour lui. Encore une fois. La grâce, c'est que Dieu avait une pensée pour nous, alors que nous étions encore pécheurs et on s'en fichait de Dieu, il avait déjà une pensée pour nous. Et ça, c'est la grâce de Dieu. Il a pensé à toi avant que tu ne penses à lui. Ça, c'est la grâce. Une deuxième notion qu'on pourrait noter, c'est que la grâce de Dieu est une faveur imméritée. La définition la plus traditionnelle, on va dire, c'est que la grâce, c'est une faveur imméritée, que je ne mérite pas. Mais c'est très difficile pour des Occidentaux de l'ère moderne de comprendre la grâce. Pourquoi ? Parce que la grâce, c'est l'opposé du mérite. Si tu fais bien tes devoirs et si tu auras une bonne note à l'école, alors tu auras un cadeau de Noël. Ça, c'est l'antithèse de la grâce. Si tu travailles bien et si tu as l'heure et si tu fais plaisir à ton patron, alors tu auras ta promotion. Ça, c'est pas la grâce. Tout ce qui est fondé sur le mérite n'est pas grâce. La grâce est une faveur que nous n'avions pas méritée. Mais ne restons pas sur le côté que nous n'avions pas mérité par certains. Ils disent, oh, j'ai pas mérité la grâce de Dieu. J'ai pas mérité. Non, non, je suis juste un ver de terre. Je suis rien. Je suis petit. Peut-être que tu ne l'as pas mérité, mais n'oublie pas le côté faveur. Accepte la faveur de Dieu. On va le voir dans le cas du salut et on va le voir dans le cas du service, que c'est des choses qu'on peut accepter par la foi. Par conséquent, si la grâce est le contraire du mérite, je ne peux pas la mériter. Je peux seulement l'hériter par la foi. La grâce, je ne peux pas la mériter. Et il n'y a rien que je puisse faire pour mériter la grâce de Dieu. Je peux seulement dire, papa, je lève mes bras, je connais ta grâce et je l'accepte, j'active ma foi et sa grâce est téléchargée dans ma vie aujourd'hui. Je pose quelques bases parce que ça va être important pour la suite. Une autre chose qu'on pourrait dire sur la grâce de Dieu, et c'est là qu'il y en a certains qui sont totalement en train de s'égarer dans le corps de Christ, la grâce de Dieu me rend capable d'obéir à la parole de Dieu. Ce que je n'arrivais pas à faire avant d'être en Christ, maintenant que je suis sans Christ, avec sa grâce, je peux obéir à ce qu'il me demande de faire dans sa parole. Et certains sont en train de dire aujourd'hui que la grâce de Dieu est un permis ou une permission pour pécher. Laissez-moi vous dire ceci. Tu n'avais pas besoin d'une autorisation ou d'un permis avant pour pouvoir pécher. Avant d'être en Christ, on n'avait pas besoin. On le faisait, c'était notre nature. Donc maintenant que nous sommes en Christ, ne dis pas que la grâce de Dieu est une autorisation pour pécher. Paul dira, loin de là. La grâce de Dieu, c'est un équipement que Dieu te donne pour être capable d'obéir à ce qu'il te demande de faire et pour être capable de renoncer aux mauvaises œuvres pour entrer dans les bonnes. C'est comme la repentance. Aujourd'hui, la repentance, c'est pas quelque chose de négatif, la repentance. La repentance, c'est se tourner de quelque chose de négatif pour entrer dans quelque chose de positif. Mais dites à n'importe quel chrétien, repentance, ça veut dire négatif. Vous lui dites vie éternelle positive. Vous lui dites justification positive. Vous lui dites pardon des péchés positif. Dites-lui repentance, ah non, c'est négatif. Quel est le premier message que Jésus a prêché? Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Il dit quoi? Il n'a pas dit repentez-vous car la colère de Dieu arrive. Il a dit repentez-vous car le royaume est là. Quand je me repens, quand je me détourne, je suis en train de quitter quelque chose qui est en train de m'entraver dans ma destinée. Et je suis en train de rentrer de quelque chose qui est positif. Le royaume de Dieu. La repentance est bonne. La repentance est positive. Et la grâce de Dieu me permet d'abandonner les mauvaises œuvres que je faisais auparavant. Elle me rend capable de rentrer dans les bonnes. Donc je me laisse conduire. Allez dans Tite. Tite chapitre 2. Verset 11. La grâce de Dieu me rend capable d'obéir à Dieu. Tite chapitre 2 verset 11. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes. Je suis désolé, je ne l'ai pas mis sur le PowerPoint, donc je suis en train de me laisser conduire là. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Et on va voir au verset 12 que la grâce de Dieu nous enseigne quelque chose. Allons voir ce que la grâce de Dieu nous enseigne à faire. Verset 12, elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. La grâce de Dieu me donne la capacité divine de renoncer aux œuvres mondaines, de renoncer aux œuvres qui étaient en train de m'entraver pour pouvoir rentrer dans la sagesse, la justice et la piété. Voilà la grâce de Dieu. Elle m'enseigne à renoncer aux mauvaises œuvres pour rentrer dans les bonnes que Dieu m'a préparées d'avance, mais pas par une force humaine. La grâce, ce n'est pas une force humaine, c'est une puissance divine qui vient pour nous. Et lorsque j'étais coincé par rapport à certaines choses dans ma vie, maintenant avec la grâce de Dieu, je peux le faire. Ça peut être la cigarette, ça peut être la pornographie, ça peut être plein de choses, mais la grâce de Dieu va te permettre d'obéir à la parole de Dieu. Amen. Tout le monde a bien saisi ça. Quatrième chose, pour que vraiment ça soit grâce, Dieu ne force jamais sa grâce. Parce que s'il force sa grâce, c'est plus de la grâce. C'est pour ça qu'il dit, mais pourquoi Dieu ne fait pas en sorte que tous les hommes soient sauvés? Ben parce que le salut est une grâce. Et soit tu peux accepter le salut, soit tu le renonces. Mais s'il te forçait le salut sur toi, ça ne serait plus un salut par grâce, ça serait un salut par contrainte. Et nous allons voir que pour décrocher le salut, il faut deux choses. Il faut la grâce de Dieu et il faut la foi de l'homme. La grâce est la main de Dieu, alors que la foi est la main de l'homme. Et quand les deux coïncide, boum, 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 le salut est téléchargé en nous. Le pardon des péchés est téléchargé en nous. La vie éternelle est téléchargée en nous, mais on va le voir qu'il faut deux éléments. Donc Dieu ne force jamais sa grâce. Je ne peux pas forcer quelqu'un. À ce moment-là, je ne serai plus quelqu'un de gracieux. Dieu ne force pas sa grâce. Soit elle s'accepte, soit elle se refuse. Et cette décision, c'est l'homme qui doit la prendre. Dernière notion avant d'introduire deux choses en particulier, c'est que la grâce de Dieu, c'est tout ce que Dieu a fait et pourvu pour moi que je n'aurais pas pu faire et accomplir par moi-même. La grâce de Dieu, c'est tout ce que Dieu a fait pour moi, tout ce qu'il a pourvu pour moi que je n'aurais pas pu obtenir ou faire par moi-même. Je vous donne un exemple. Tu n'aurais pas pu et je n'aurais pas pu obtenir la vie éternelle. La vie éternelle est une grâce. Je l'aurais et tu n'aurais pas pu obtenir le pardon de tes péchés. Le pardon des péchés est une grâce. Tu ne peux pas aller au ciel par tes propres forces. Le royaume de Dieu et le ciel est une grâce. Donc la grâce de Dieu, c'est tout ce que Dieu a fait pour moi, en Christ, que je n'aurais pas pu faire par moi-même, par mes propres forces. Ça, c'est la grâce de Dieu. Il y a le pardon des péchés qui est une grâce. Il y a la vie éternelle qui est une grâce. Il y a le salut qui est une grâce. Le fait d'être une nouvelle création est une grâce. La guérison divine est une grâce. N'essaye pas d'obtenir ta guérison, il faut la recevoir, parce qu'elle a été obtenue par grâce. Tout tout ce que Dieu a fait, que je n'aurais pas pu faire par moi-même. C'est la grâce. Donc vous voyez que vous ne pouvez pas l'obtenir. Vous ne pouvez pas la mériter, pardon. Vous pouvez l'obtenir, mais vous ne pouvez pas la mériter. Nous allons voir deux aspects de la grâce ce matin. La grâce qui nous sauve et la grâce qui nous permet de servir le Seigneur dans la joie. La grâce qui nous sauve, parce que Dieu a pourvu le salut par grâce, et on va voir qu'on est sauvé par la grâce, et là on va voir ce que Paul a dit. Et lorsqu'on va parler de la grâce pour servir le Seigneur dans la joie, on va voir ce que Pierre a dit. On ne va pas voir ce que Jacques a dit ce matin. Ça va? Donc allons voir ce que Paul a dit sur la grâce de Dieu en ce qui concerne notre salut. Allez dans Éphésiens chapitre 2. Et nous allons prendre trois versets. Et après, je vais vous poser quelques questions. Parce que finalement, ce n'est pas juste que je fasse mon travail. Alors, Éphésiens chapitre 2, versets 8, 9, 10. Et là, nous allons voir un des aspects de la grâce. Ce qu'il faut retenir, c'est que la grâce a plusieurs aspects. Un des aspects, c'est la grâce pour être sauvé. Et un deuxième aspect qu'on va voir, c'est la grâce pour servir le Seigneur avec joie. Certains sont en train d'utiliser la grâce comme une excuse pour ne pas servir le Seigneur. Et ils disent, ah, stop, je ne suis plus sous la loi, je suis sous la grâce. Par conséquent, ne me force pas à aller à l'église, ne me force pas à donner ma dîme, ne me force pas à servir. C'est une conception erronée de la grâce de Dieu. Parce que Dieu donne un aspect de sa grâce pour pouvoir le servir avec efficacité et produire beaucoup de fruits dans son royaume de Dieu. Donc je veux juste mettre les jalons, que ça soit clair pour toute l'assemblée. D'accord ? Éphésiens chapitre 2 nous dit, verset 8, « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. » Tiens, voilà la grâce. « Par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. » Et voilà le verset qu'on a étudié en début de prédication, d'enseignement. « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, afin, ou que Dieu a préparé d'avance, afin que nous les pratiquions. » Question. Que faut-il pour être sauvé? Qui dit que nous avons besoin de la grâce? Qui lève la main pour la grâce pour être sauvé? Qui lève la main pour la grâce? Okay. Qui pense que c'est par la foi que nous sommes sauvés? Okay. Qui pense qu'il faut la grâce et la foi pour être sauvé? Ah, vous êtes bien enseigné dans cette église. Mais remarquez ceci, nous ne sommes pas seulement sauvés par la grâce. Comme on l'a lu dans Tite, la grâce est la source du salut. Mais lorsque vous avez une source, il va falloir aller puiser avec un seau. Donc c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Donc pour être sauvé, la grâce a été pourvue à la croix, le salut a été pourvu à la croix, le fait qu'on va échapper à l'enfer a été pourvu à la croix. Mais maintenant, il faut aller le chercher par la foi. La grâce de Dieu, c'est que le salut a été pourvu, mais la foi de l'homme, c'est d'aller le chercher et de l'accepter. Donc j'ai besoin de la grâce de Dieu pour être sauvé, et j'ai besoin de ma foi pour être sauvé. Oui ? Bien. Donc cette source du salut, qui est la grâce de Dieu, lorsque j'exerce ma foi dans ceci, je vais puiser ce salut, et je vais le déverser. Et voilà, je suis sauvé, héritier de la vie éternelle, péché pardonné, une nouvelle création et en route pour le ciel. Je répète, la grâce, c'est la main de Dieu. Et Dieu a pourvu le salut pour tous les hommes, nous dit-il. Mais ce sont seulement ceux qui ont exercé leur foi dans cette grâce que le salut a été effectif pour ces personnes. Donc potentiellement, le salut est pour tout le monde. Mais effectivement, le salut n'est que pour ceux qui ont exercé leur foi dans la grâce de Dieu. Je redis ça. Le salut, potentiellement, il a été pourvu pour tous. Mais ce ne sont que ceux qui ont exercé leur foi dans la source du salut qui sont effectivement, concrètement sauvés. Allez en Romains 5. Et là, je vais vous poser une question. Romains 5, versets 1 et 2. Est-on donc justifié par la foi? Ah tiens, comme quoi on voit que ce n'est pas que par la grâce, c'est aussi par la foi. Qu'est-ce qui se passe quand on est justifié par la foi? Vous êtes prêts à vous réjouir? Nous avons la paix avec Dieu. Waouh. Est-ce que vous avez la paix avec Dieu? Par notre Seigneur Jésus-Christ. Donc pas par une propre force, parce que lui l'a fait. Verset 2. À qui nous devons d'avoir eu, par la foi, accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Question. Qu'est-ce qui me donne, selon Romains 5, verset 2, je vous ai dit, je vais enseigner. Qu'est-ce qui me donne, selon Romains 5, verset 2, accès à la grâce de Dieu? La foi. C'est marqué ici, noir sur blanc. Par la foi, accès à cette grâce. Donc, pour pouvoir accéder à la grâce de Dieu, j'ai besoin d'exercer ma foi. Ma foi ne peut que prendre ce que la grâce de Dieu a pourvu. Oula, c'est en train d'aller d'une vitesse dans votre tête. La foi, ma foi, ne peut que prendre ce que la grâce de Dieu a pourvu. Si la grâce de Dieu a pourvu le salut, je peux le prendre. Si la grâce de Dieu a pourvu la guérison divine, avec ma foi, je peux la prendre. Mais la grâce de Dieu n'a pas pourvu la forme de quelqu'un d'autre. Là, ce serait exercer une foi illégale. Parce que la grâce de Dieu a pourvu une femme pour moi. La Bible dit que celui qui trouve une femme obtient une grâce. Donc si vous êtes seul et vous voulez vous marier, exercez votre foi, parce que la Bible dit que quand tu as une femme, tu as une grâce de l'Éternel. Mais vous comprenez bien que je ne peux pas exercer ma foi dans un cadre illégal. Je ne peux pas exercer ma foi dans quelque chose que la parole de Dieu ne dit pas que je peux avoir. La foi va chercher ce que la grâce de Dieu a pourvu. Vous êtes toujours avec moi? C'est comme une pièce de monnaie. Il y a pile et face. Le côté pile, c'est la grâce de Dieu pour le salut. La grâce de Dieu dit, on n'a pas mérité, c'est le don de Dieu. Question, est-ce qu'un don ou un cadeau est gratuit? Ben, c'est gratuit pour la personne qui est l'enfant, mais pas pour celui qui l'a. Ou alors Bernard décide, je vais bénir ma femme ce dimanche, je vais lui acheter un cadeau, mais attention, parce que Bernard, il pense que le cadeau est gratuit, donc il va te donner le cadeau et il y a la facture coincée avec le cadeau. Non, vous comprenez que ça, c'est une mauvaise conception du cadeau. Écoutez bien, la grâce de Dieu, c'est le don de Dieu. Mais un cadeau, écoutez, c'est trop important. La grâce de Dieu, c'est le don de Dieu. Mais un cadeau coûte à celui qui donne le don. Mais le cadeau est gratuit pour celui qui reçoit le don. Donc la grâce de Dieu, elle a tout coûté à Jésus. Mais pour celui qui reçoit le salut, c'est gratuit. Mais à lui, ça a tout coûté. Donc la grâce de Dieu n'est jamais quelque chose de bon marché, c'est quelque chose de très cher. Le cadeau a coûté à celui qui donne le cadeau. Donc le salut a coûté à Dieu. Mais il est gratuit pour celui qui l'a reçu. Donc la grâce de Dieu a coûté quelque chose à Dieu. Et quand j'exerce ma foi dans ce cadeau-là, c'est gratuit pour moi. Waouh. Ça, c'est la grâce. Quand ça a coûté pour Dieu et c'est gratuit pour toi, ça s'appelle la grâce de Dieu. Deuxième chose par rapport à ce texte. Donc le côté pile, c'est le côté Dieu, le côté grâce, qui a coûté quelque chose à Dieu. Le côté face pour obtenir le salut, c'est le côté gratuit, le côté où l'homme doit exercer sa foi dans la grâce. Ça va? Maintenant, selon ce texte, toujours Éphésiens, est-ce que mes œuvres à moi, parlons des œuvres un petit peu, parce que là aussi il y a trop de confusion, est-ce que mes œuvres à moi ont un rôle à jouer pour l'obtention du salut? La Bible dit clairement, et vous êtes très fort, que mes œuvres n'ont pas de rôle à jouer. Parce que le verset 9 nous dit, ce n'est point par les œuvres. Éphésiens 2, verset 9, ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Vous êtes tout ça? Tous d'accord que ce n'est pas par mes œuvres? Mais aujourd'hui, il y a encore des personnes qui pensent que, puisqu'ils ont bien coupé leur bois, puisqu'ils ont bien payé leur facture, puisqu'ils étaient en bon terme avec tout le monde, Dieu va ouvrir sa porte et qu'ils vont rentrer comme ça. Mais ils pensent que c'est un salut par mérite et pas par grâce. La seule œuvre qui compte dans le salut, c'est l'œuvre de Christ. Nos œuvres à nous n'entrent pas en compte pour l'obtention du salut. La seule œuvre magistrale, c'est l'œuvre rédemptrice de Christ qui compte pour être sauvé. En revanche, lorsque nous sommes sauvés maintenant, est-ce que Dieu attend de nous de bonnes œuvres? Il attend de nous de bonnes œuvres. Regardez le verset 10 de Éphésiens. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ, pour, souligné dans la Bible, pour de bonnes œuvres. Pour de bonnes œuvres. Pour de bonnes œuvres. Pour de bonnes œuvres. Un chrétien sauvé est censé produire de bonnes œuvres. Parce qu'il y en a beaucoup qui sont sauvés, mais qui ne sont pas encore sanctifiés, et les bonnes œuvres tardent à venir. Mais nous devons marcher dans ces bonnes œuvres qu'il a planifiées ou pratiquées d'avance pour nous. Même Jésus parle des bonnes œuvres. Allez dans Matthieu 5, par exemple. Matthieu 5, verset 16, « Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient quoi ? Vos bonnes œuvres. » Je vais être un témoignage pour le monde, je vais luire pour le monde lorsqu'ils vont voir mes bonnes œuvres. Donc les œuvres, elles sont bonnes ou elles sont mauvaises? Ben ça dépend du côté de l'équation d'où on les met. Si on les met avant le salut, elles n'ont pas en compte. Mais si on les met après le salut, elles rentrent en compte. Et après il dit, et qu'il glorifie votre Père qui est dans les cieux. Le Père sera glorifié quand ses enfants produisent de bonnes œuvres qu'il a préparées. Donc il y a trois choses que j'aimerais qu'on retienne de ce premier texte sur le fait que nous sommes sauvés par la grâce. La première chose, c'est que je ne suis pas sauvé par mes œuvres, mais je suis sauvé pour les bonnes œuvres. Je répète, je ne suis pas sauvé par mes œuvres, mais je suis sauvé pour de bonnes œuvres. Mes œuvres ne sont pas la racine de mon salut, ne sont pas la source de mon salut, parce que ça, c'est la grâce de Dieu. Mes œuvres sont les fruits du fait que je suis sauvé. Est-ce que vous êtes en train de porter du fruit? Jésus dit qu'on est censé porter du fruit et du fruit qui demeure. Troisième chose, mes œuvres ne sont pas la cause de mon salut. Elles sont la conséquence. Jusqu'au salut, mes œuvres n'entrent pas en compte. Depuis le salut, Dieu me donne une grâce qui va me permettre de produire du fruit pour son royaume. Donc là, on a vu le premier aspect de la grâce que je voulais traiter avec vous ce matin. Le fait qu'on est sauvé par grâce, par le moyen de la foi. Maintenant, j'aimerais vous parler d'un deuxième aspect. Je vais être moins long sur cet aspect-là. C'est que la grâce est non seulement la source de notre salut, mais la grâce est la source de notre service pour le Seigneur dans la joie. Il y a une grâce qui veut venir sur toi pour que tu puisses servir Dieu dans la joie. Regardez ce que Pierre a dit maintenant. Pierre a dit quelque chose en 1 Pierre, chapitre 4, verset 10. Donc, je traite un deuxième aspect de la grâce maintenant. La grâce pour être sauvé. J'ai traité, maintenant je parle de la grâce pour servir le Seigneur avec joie. Il y a un deuxième aspect de la grâce qui existe pour pouvoir entrer avec joie dans les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Vous êtes prêts? 1 Pierre 4, 10, dans la version seconde. Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu. Vous voyez qu'il y a diverses grâces. La même source, le trône, le cœur de Dieu, mais diverses grâces, divers canaux qui sortent de cette grâce. Et le mot grâce, en grec, c'est le mot charis. Moi, je voulais appeler ma fille Carissa aussi. Parce que grâce, cadeau de Dieu. J'ai du mal à convaincre ma femme. Diverses grâces, grec charis de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don charisma qu'il a reçu. Waouh! Là, c'est aussi quelque chose de merveilleux que Pierre est en train d'enseigner. La première chose, c'est que la grâce de Dieu, qu'on appelle en grec charis, elle a divers aspects. C'est comme si je prends une prise, et sur une prise, je peux mettre un climatiseur, je peux mettre un chauffage, je peux mettre quelque chose pour chauffer mes plats, mais c'est la même source. La grâce, c'est la même source, mais il y a une grâce pour être sauvé, et il y a une grâce pour servir Dieu. Il y a d'autres grâces que je ne vais pas entrer aujourd'hui, mais il y a une grâce pour être sauvé, et il y a une grâce pour servir Dieu. D'accord? Donc on voit que la grâce de Dieu, elle a différents branchements, elle a différents aspects. La deuxième chose qu'on peut voir, c'est que la grâce de Dieu, charis, nous a donné à tous un don qui s'appelle charisma. La source du don que tu as reçu, le don que tu as reçu, tu ne l'as pas mérité, sinon ça ne serait plus un don. Le don que tu as vient de charis. Le charisma que tu as reçu vient de charis, de la grâce de Dieu. Donc ne te vante pas du don que tu as reçu. Tu l'as reçu sans rien faire. Par contre, après, on peut le pratiquer. Et c'est là qu'on rentre en jeu. Mais la grâce de Dieu, charis, a déversé sur tout le peuple, charisma, un don. Et qu'est-ce que je suis sans? Vous remarquez que c'est la même racine en grec. Charis, grâce, t'a donné un don, charisma. Donc on a reçu un cadeau de la part de Dieu. On a reçu quelque chose que nous n'avons pas mérité de la grâce de Dieu. Que suis-je censé faire avec le charisma que j'ai reçu de charis? Je suis censé le mettre au service des autres. Le mettre au service des autres et pour la gloire de Dieu. Regardez le prochain verset, 1 Pierre 4, 11, j'ai pris la version Summer. Il y a deux grandes catégories de dons que Dieu a donné. Charis, la grâce de Dieu a donné deux dons particuliers dans le corps de Christ. Il y en a un qui est pour parler et l'autre qui est plus spécifiquement pour servir. Certains ont plus des dons vocaux, alors que d'autres ont plus des dons. Dis-moi quand c'est pour retrousser les manches et je suis là. Donc on le voit dans 1 Pierre 4, verset 11, on voit qu'il y a un don pour parler. Que celui qui parle, donc c'est la suite de l'enseignement de Pierre, que celui qui parle transmette les paroles de Dieu. Et que celui qui sert, et là on voit qu'il y a deux grandes catégories de dons principales, accomplissent sa tâche avec la force que Dieu donne. Voilà la grâce. La grâce, ce n'est pas toi qui le fais par ta propre force. La grâce, c'est quelque chose que Dieu t'a donné. Charisme t'a donné, charisma. Et lorsque tu opères dans ton charisma que charisme t'a donné, tu vas opérer avec la force que Dieu te donne. Tu es dans la grâce de Dieu. Lorsque tu opères dans le charisma que Dieu t'a donné par charisme, tu vas opérer avec la force que Dieu te donne. Et ce n'est plus une force charnelle, naturelle, humaine, c'est une force divine. Donc là, c'est un autre aspect de la grâce. Et vous savez quoi? Quand tu opères dans ta grâce, elle est reconnaissable par les autres. Lorsque Paul opérait dans sa grâce et qu'il a rencontré les autres apôtres, ils ont dit, mais ils ont reconnu la grâce qui était sur lui. Lorsque tu opères dans ton charisme, que charisme t'a donné, les autres le remarquent. Donc il y a deux dons principaux, celui qui parle et celui qui sert. Et lorsque tu opères avec la force que Dieu donne, tu es en train de servir le Seigneur avec joie. Parce que si tu le fais avec tes propres forces, tu ne seras pas dans la joie. Le problème, c'est que certains essayent de servir et ils pensent que le service va compenser leur manque d'intimité avec le Seigneur. Laissez-moi vous dire ceci, si tu sers plus que ce que tu passes du temps avec Dieu, tu n'opéreras pas dans la grâce de Dieu. Mais lorsque tu passes plus de temps avec Dieu et que ton temps avec Dieu surpasse le service que tu fais pour lui, à ce moment-là, tu opères dans la force que Dieu te donne. Mais il y en a trois qui sont comme ça. Ils servent. Allez, 5 minutes de prière, 2 minutes 30 de versets, et voilà. Mais je sers. Et après, 3, 4 mois, pouf, écoulement. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont plus en train de le faire dans la grâce. Ils sont en train de le faire par la chair. Pour faire le plein de la grâce, c'est comme ta voiture, il faut aller à la station essence. Et il faut recevoir et remplir. Mais si tu sers plus que ce que tu ne reçois à la maison, quand les portes sont fermées et personne ne te voit, tu ne vas pas pouvoir servir le Seigneur. Ou tu vas le faire un mois, ou deux. Mais ce qui nous intéresse à l'histoire de chrétien, c'est sur la durée. Donc, est-ce que ton intimité avec Dieu surpasse le service que tu lui rends? Ou alors, c'est ton service qui est tellement prépondérant que ton intimité avec Dieu, elle est radée par terre. Donc, deux catégories de dons principales. Celui qui parle et celui qui sert. Et quand on est dans la grâce de Dieu, on agit avec la force que Dieu donne. Et regardez ceci, la gloire revient toujours à Dieu. Lorsque tu opères dans ton charisme que charisme t'a donné, le but, ce n'est pas notre gloire, c'est la gloire de Dieu. Certains sont tombés parce qu'ils ont cru que la gloire était pour eux. Et ils opéraient dans leur charisme. Mais au lieu de rendre la gloire à Dieu, ils se sont dit, ah, c'est pas mal d'avoir la gloire. On la garde. Mais l'orgueil précède la... C'est pour ça qu'il faut les bons jalons. Je suis sauvé par grâce, par le moyen de la foi. Premier aspect de la grâce. Deuxième aspect de la grâce. Dieu veut me donner une grâce. Il veut me donner sa foi pour pouvoir le servir avec joie et avec efficacité. Et on le voit, et je vais terminer là avec Éphésiens 3. Comment cette deuxième grâce s'est manifestée où ce deuxième aspect, le titre de la grâce, s'est manifesté dans la vie de Paul. Donc, souvenez-vous, en Éphésiens 2, Paul parle de la grâce qui ? En Éphésiens 2, dans la grâce, il parle de la grâce qui ? Sauve. Quelqu'un suit. Mais regardez, en Éphésiens 3, il va parler du deuxième aspect de la grâce. Il va parler de la grâce que Dieu lui a donnée pour servir le Seigneur. Vous êtes là ? Éphésiens chapitre 3, et nous allons commencer au verset 6. Ce mystère, et nous allons découvrir la grâce de Dieu qui était sur Paul, mais après je vais vous poser une question piège. Je vais vous demander quelle est la grâce que toi tu as reçue. Et tu me dis, oh, mais je n'ai même pas pu répondre à la question la semaine dernière. Qui est en moi et ma destinée ? Comment je vais répondre à celle d'aujourd'hui ? Mes amis, ces questions ne sont pas destinées à être répondues du jour au lendemain. C'est des questions que vous prenez dans votre cabinet de prière, que vous priez, que vous méditez, que vous réfléchissez, vous la tournez dans tous les sens, vous priez sur ces choses. Mais c'est pour donner quelque chose à méditer pendant la semaine. Pour ceux qui ont une vie d'intimité, ça n'est pas clair. Éphésiens 3, verset 6. Ce mystère, c'est que les païens sont cohéritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile. Verset 7. Dont j'ai été fait ministre. Est-ce qu'il a été fait ministre pour Christ selon sa propre force ou c'était une autre force ? Selon le don. D'où venait ce don ? De la grâce de Dieu. Qui m'a été accordé ? Comment est-ce qu'elle lui a été accordée ? Avec faiblesse ? Non. Par l'efficacité de sa puissance. Donc Dieu opérait, Paul opérait dans son charisma que Charis lui a donné. Et lorsqu'il opérait dans ce charisma que Charis lui a donné, il y avait une efficacité et une puissance qui opérait dans la vie de Paul. Raison pour laquelle il pouvait recevoir 40 coups moins 1 et toujours continuer à servir le Seigneur avec joie. Il pouvait être avec Silas en prison et il pouvait toujours servir le Seigneur avec joie. Et au bout d'un moment, il y en a un qui a commencé à voyager avec Paul. J'en suis nommé Marc. Il s'est dit, ben, moi je pars avec Paul depuis Antioche, Actes chapitre 13. Mais j'en suis nommé Marc, il s'est dit, mais en fait, Paul, c'est une tête brûlée. Je ne vais pas pouvoir réussir à le suivre. Ça, je vais dire mon opinion personnelle. Je pense que Paul avait une grâce que Jean surnommé Marc n'avait pas reçue. Et Paul était destiné à faire quelque chose qui était tellement unique que Jean surnommé Marc, il a essayé de le suivre au début, mais après il a plus pu et il a rebroussé chemin. Du coup, Paul, il a pris Silas avec lui, Barnabas a pris Jean surnommé Marc. Viens, je vais t'encourager parce que Paul, il est un peu dur avec toi. Bouffe. Et ils sont partis ensemble, Barnabas et Jean surnommé Marc. Et ensuite, Paul et Silas ont fait une équipe de ministère et ils sont partis ensemble. Mais Paul avait une telle grâce sur lui, avait une telle efficacité, avait une telle puissance dans son ministère, parce qu'il opérait dans sa destinée. Et dans sa destinée, la grâce de Dieu opérait sur lui, et il pouvait recevoir 40 coups moins 1 et toujours continuer à servir le Seigneur. Vous voyez que ce n'était pas une de la chair. C'était l'efficacité de la puissance de Dieu. Verset 8. À moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été. Vous êtes prêts à découvrir la grâce de Paul ? Cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ. Paul n'enseigne plus sur la foi qui sauve ici. Il enseigne sur la foi pour servir le Seigneur avec joie. Et quelle était la grâce de Paul ? Paul avait reçu une grâce de Dieu, par l'intermédiaire de Jésus, d'annoncer l'évangile à ceux qui n'étaient pas juifs. Mais regardez, Pierre avait reçu le mandat, et quand tu reçois un mandat, tu reçois la grâce qui va avec. Pierre avait reçu le mandat et la grâce d'annoncer la bonne nouvelle aux Juifs. Alors que Paul avait reçu le mandat et la grâce qu'il avait pour annoncer l'évangile aux non-Juifs. Mais imaginez un instant si Pierre avait essayé de prendre la place de Paul et si Paul avait essayé de prendre la place de Pierre. Pas la même efficacité, pas le même mandat, donc pas la même grâce. Donc n'essayons pas d'opérer dans la grâce de quelqu'un d'autre. Trouvons notre grâce et allons dedans et nous allons être équipés avec ça, la vertu de sa puissance, avec efficacité et nous allons être des disciples qui vont vraiment produire beaucoup de fruits et le Père sera glorifié par nos propres vies. Voilà le but de la grâce de Dieu pour le servir. Question. Quelle est la grâce que tu as reçue de Dieu pour le servir avec toi ? Parce que je vais vous montrer l'exemple de Paul. Ou l'exemple de Pierre, si on peut mettre la question. Quelle est la grâce que tu as reçue ? Et on a établi qu'on la reçoit de Dieu. Pour servir le Seigneur avec joie. Mais tu te dis, non, mais Philippe, cette grâce, elle était seulement pour les apôtres. Cette grâce, elle était seulement pour ceux qui ont commencé l'Église au temps de Jésus. Mais Éphésiens 4, verset 7 nous dit, mais à chacun de nous. Ça veut dire que Vous avez reçu une grâce, et moi j'en ai reçu aussi. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée. Selon la mesure du don de Christ. Christ s'est donné, et il a réparti dans le peuple de Dieu diverses grâces. Et lorsque tu opères dans cette grâce, lorsque tu opères dans le charisma que Christ t'a donné, tu es équipé par la vertu de sa puissance, et tu vas porter du fruit et servir le Seigneur avec toi. Conclusion. La grâce de Dieu, charisme, t'a donné un don, charisma, pour servir Dieu et les autres avec joie. Et le mot grec pour joie, c'est chara. C'est toute la même racine. Quand tu es dans ton charisma, tu es dans la joie. Quand tu es dans la joie, tu es dans ton charisma. Quand tu es dans ton charisma, tu es dans charisme. Parce que charisme, ça donne charisma. Et quand tu es dans chara, dans ta joie, ben en fait, tu es en train d'expérimenter charisme. Parce que charisme, c'est la vertu. C-H-A-R, c'est toute la même racine en grec. Donc la grâce de Dieu t'a équipé. Oui, toi, oui, oui. Toi, petit toi, oui, oui. Non, parce que certains pensent que non, mais c'est seulement pour les grands. C'est seulement pour ceux qui... Non, c'est pour tout le monde. Tu as reçu une grâce de Dieu. Par contre, je ne peux pas la découvrir pour toi et je ne peux pas opérer dedans à ta place parce qu'à ce moment-là, je suis en train d'opérer en dehors de ma grâce et de prier à la terre. Quelle est la grâce que tu as reçue de Dieu? Charisme. T'as donné charisma pour servir Dieu et les autres avec car, avec la joie. Waouh! Vous savez quoi? On ne découvre pas son charisma en restant assis. Non, mais parce que vous avez la question, mais comment je vais le découvrir maintenant? Parce qu'il me dit qu'il faut. Ben, quand on commence à servir de façon complète, petit à petit, on découvre des aptitudes, on dit, ah, je suis plus à l'aise ici. Ah, là, j'ai l'impression que je suis. Dieu m'a donné une grâce de le servir à plein temps. Et puisqu'il m'a donné cette grâce, je peux, avec. Quand il y a la grâce, il y a la provision de Dieu. Et une fois, j'ai essayé d'aller gagner un peu plus de sous, et je suis sorti de cette grâce, parce que je voulais un petit peu arrondir mes fins de mois. Catastrophe! Dieu m'a donné la grâce de le servir à plein temps. Donc la provision divine sera attribuée pour cela. Alors lorsque Dieu conduit, lorsque Dieu guide, la provision de Dieu est là. Mais si Dieu vous a demandé de le servir à 50%, servez-le à 50%, parce que la provision sera en fonction. En fonction de la grâce dans laquelle vous êtes, la provision de Dieu sera là. Parce que la provision de Dieu, c'est aussi une grâce. De riche qu'il était, il est allé à la croix par sa grâce, et nous savons qu'il est enrichi. C'est aussi une grâce. Vous savez quoi? J'ai deux invitations. La première, c'est pour ceux qui ont besoin de la grâce pour le salut. Je viens de vous expliquer que le salut, vous ne pouvez pas le mériter. Mais vous pouvez exercer votre foi et le recevoir. Pour ceux qui n'ont pas reçu la vie éternelle, pour ceux qui savent qu'ils n'ont pas leur péché pardonné, pour ceux qui savent qu'ils ne sont pas en paix avec Dieu, pour ceux qui savent qu'ils ne sont pas une nouvelle créature en Christ, je vais diriger une prière et je vais vous demander de la répéter. Et après, pour ceux qui sont déjà croyants, on va faire le plein à la station essence. Je vous assure, hier soir, on était près d'une trentaine, et bien certains, ils avaient besoin de faire le plein de la grâce de Dieu. Parce qu'ils étaient un petit peu sur les rotules, ils étaient un petit peu fatigués, les épaules tombaient un petit peu. Mais vous savez quoi? Ce matin, on va ouvrir la station essence de Dieu. Sa grâce va être déversée. Et sachez ceci, on n'est pas en train d'essayer de tordre le bras de Dieu pour qu'il nous donne sa grâce. Elle a déjà été donnée. Donc venez ici recevoir la prière avec foi. Et ça va tomber sur vous. On n'est pas en train de forcer Dieu, ça a déjà été pourvu. Alors, levez-vous. D'abord, pour ceux qui ont besoin d'être sauvés. Ceux qui ne savent pas qu'ils sont hérités de la vie éternelle. Est-ce qu'on peut lever nos mains ensemble? Si c'est ton cas, tu sais que tu n'es pas réconcilié avec Dieu. Tu sais que ta vie n'est pas en règle avec Dieu. Tu sais que tu as besoin que tes péchés soient pardonnés par le sang. Tu sais que tu as besoin de recevoir la vie éternelle et de vivre l'éternité avec Dieu. Je vais diriger une prière et te demande de croire de ton cœur et de confesser à haute voix de ta bouche. Ça va? Après, on va faire une deuxième prière pour ceux qui ont besoin d'aller à la station essence. Et ensuite, on ouvrira pour des prières personnelles. Ça va? Donc, la prière pour le salut, est-ce qu'on peut y aller ensemble? Père, tu es le Père de toute grâce. J'ai entendu ta parole ce matin. La source du salut, c'est ta grâce. Maintenant, j'exerce ma foi dans cette grâce. J'ai accès à cette grâce par ma foi. Et maintenant, tu télécharges en moi la vie éternelle, le pardon des péchés. Je crois dans mon cœur et je confesse de ma bouche que Jésus est Seigneur de ma vie. Et ta grâce m'équipe à renoncer aux mauvaises œuvres et à rentrer dans les bonnes que Dieu a planifié d'avance pour moi. Je reçois ton salut dans le nom de Jésus. Est-ce que c'était compliqué? Jésus a tout fait. Pour nous, c'est simple. Vous dites, ben, ça ne peut pas être si simple. C'est simple. Parce que Jésus a tout fait. Donc, ceux qui ont fait cette prière pour la première fois, Nathalie, Gérard ou les deux, vont venir ici sur ma loupe. Et ils vont vouloir prier personnellement avec vous. D'accord? Donc, si c'est la première fois que vous avez fait cette prière-là, vous pouvez vous approcher de Nathalie et de Gérald et ils vont vous conseiller et ils vont prier avec vous. Ça va? Pendant ce temps, les autres, ceux qui ont besoin de faire le plein de la grâce, d'aller à la station essence de Dieu, on va faire une prière ensemble parce que je vais vous montrer que vous pouvez le faire à la maison par vous-même. Vous n'avez pas besoin d'un pasteur qui vous dirige dans ces choses. Vous pouvez le faire par vous-même et recevoir la grâce de Dieu pour votre vie. Et je vous assure, hier soir, oh là là, les gens sont repartis. Ouh, moi, ça débordait tellement de chez moi, j'ai dit, venez, venez, parce que ça déborde. Il faut que je le donne à quelqu'un d'autre. Vous êtes prêts à recevoir la grâce de Dieu pour continuer, parce qu'il y a une grâce pour aller au ciel, mais il y a une grâce pour continuer sur la terre. Il y a une grâce pour agrandir le royaume de Dieu, il y a une grâce pour continuer dans l'œuvre de Dieu. Donc à tous ceux qui sont abattus et qui sont peut-être fatigués, levons les bras et acceptons la grâce de Dieu. À nouveau, ce n'est pas une question de mérite, il faut juste la recevoir. Vous êtes prêts à la recevoir? Père de toute grâce, dans le nom de Jésus, je viens à la station essence. J'ai besoin d'être rempli de ta grâce. Parce que ton trône est un trône de toute grâce. Viens rafraîchir mes eaux. Viens me remplir jusqu'à ce que ma coupe déborde. Ma coupe n'est pas à moitié pleine. Ma coupe n'est pas à moitié vide. Mais comme David, ma coupe déborde. Et le bonheur et la grâce m'accompagnent. Tous les jours de ma vie. Amen. Si vous avez besoin d'aide, vous avez besoin que quelqu'un d'autre s'accorde parce que la pompe a du mal à monter. On est là pour prier pour vous. Et les personnes qui ont prié la première prière pour la première fois, je vous demande d'être dirigées ici. Et les personnes qui veulent recevoir pour être remplies davantage. Et hier, quand j'ai pensé à la célébration de ce matin, la guérison divine a été pourvue par grâce. Donc tu peux venir la chercher par la foi. Mais maintenant, il faut actionner ta foi là où tu es. Parce que la foi donne accès à la grâce de Dieu. Donc s'il y a des gens pour la guérison divine, pour être remplis davantage de Dieu, venez ici, il va y avoir...